Je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Achetez moins, achetez mieux, faites que ça dure. Qualité, pas quantité, tout le monde achète beaucoup trop de vêtements. Vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont les mots de la créatrice Vivienne Westwood. Je ne dois pas faire figure d'exception en disant que j'ai été passionnée par la mode, d'ailleurs je le suis toujours, mais différemment. Et récemment, je me suis penchée sur la question de la fast fashion et de notre rapport à la consommation de vêtements. J'ai voulu essayer de comprendre qui les fabriquait, ce qu'il y avait derrière, en termes humains, écologiques et économiques. Trouver des experts du sujet, c'est pas forcément évident en France. En tout cas, j'ai la chance d'avoir été mise en relation avec Julia Faure, que vous allez entendre dans cet épisode. Elle a 30 ans, elle est ingénieure agronome de formation et elle a un master en études de genre de l'Université Autonoma de Madrid. Si vous tapez son nom sur Internet, vous verrez certaines de ses interventions et je pense qu'elles ne vous laisseront pas indifférents. En 2016, elle a cofondé Loom, une marque de vêtements les plus durables possibles, comme elle le dit, et qui a pour ligne directrice de préserver l'humain et l'écologie. Alors, dire juste qu'elle s'intéresse à l'industrie de la mode et du textile, c'est un peu léger concernant Julia, car en fait, elle a une obsession, c'est rendre public tout ce qui ne tourne pas rond dans cette industrie. En fait, elle lutte contre l'obsolescence programmée de nos vêtements. Si j'ai fait appel à elle, ce n'est pas pour parler de sa marque, mais de sa démarche, de sa philosophie entrepreneuriale et de son point de vue d'ingénieur sur la mode. Il y a énormément de vérités dans cet épisode qui font un peu peur. C'est cash. Il n'y a pas de marketing et pas de bullshit. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je laisse la parole à mon invitée, Julia Faure. Bonjour Julia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots pour commencer ?
Oui, bonjour Estelle. Moi, je m'appelle Julia Faure et je suis la cofondatrice de Loom. C'est une marque de vêtements qui sont faits pour durer. Alors durer dans tous les sens du terme. Durer dans le temps des vêtements de bonne qualité et durer dans le sens de la durabilité écologique, c'est-à-dire en fait qu'ils soient produits en ayant l'impact le moins fort possible, le moins négatif possible sur la planète et sur les hommes. Moi à la base je suis ingénieur en agronomie, donc j'ai pas grand-chose à voir avec la mode. Et cette marque, on l'a créée avec Guillaume, mon associé, quand on a fait un constat que tout le monde a dû faire finalement, c'est que peu importe l'argent qu'on met dans les vêtements, rien ne nous assure de la qualité qu'il va y avoir au final. C'est-à-dire, tu peux mettre aussi bien 20 euros que 100 euros dans une chemise, elle peut te craquer au bout de lavage. Et au départ, nous on s'est dit, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la qualité des vêtements pour au moins la prochaine fois qu'on fera un achat, d'être sûr de faire un choix éclairé. Et en fait, sur ce chemin-là, en essayant de comprendre ce qui faisait la qualité des vêtements, en fait, il y a deux choses qu'on a compris, qui sont assez terribles. C'est la première, c'est que finalement, cette obsession de la qualité des vêtements, c'est plus du tout quelque chose qui est présent dans l'industrie textile au général. Et je pourrais revenir après dessus pourquoi. Et la deuxième, c'est qu'en plus d'avoir globalement dégradé sa qualité, l'industrie textile, elle, c'est vraiment une sale industrie, quoi. C'est vraiment une industrie qui a un impact écologique catastrophique et un impact humain vraiment honteux, quoi. On se rappelle du scandale du Rana Plaza qui finalement était la partie émergée de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire beaucoup de jeunes ouvrières qui meurent ou qui sont blessées dans une usine qui s'écroule pour fabriquer des vêtements que nous on peut porter en Europe, qui sont en fait juste le stigmate de ce qui se passe en général au Bangladesh et dans beaucoup de pays producteurs de vêtements.
Et le chiffre qui consiste à dire que c'est la troisième industrie la plus polluante, tu dis quoi sur ça ?
En fait je trouve que quand on parle de pollution ou d'environnement, on a l'impression que c'est un espèce de, de trucs globaux, alors que l'impact environnemental, il se découpe dans plein de choses. Ça, on peut parler de la pollution plastique, par exemple. Vous savez, tu vois tous les espèces d'images de continents plastiques, de bouteilles qui ravagent et qui occupent les océans. Ça, c'est un truc particulier, c'est le fait d'utiliser des fibres synthétiques, chimiques, qui sont pas biodégradables, donc qui s'accumulent et qu'on ne sait pas éliminer, et qui ont comme conséquence, là, par exemple, la première conséquence, c'est sur la faune sous-marine. En fait, ces plastiques qui sont mangés par les poissons, ça remplace le plancton, on ne sait pas exactement ce que ça va être la conséquence, mais déjà que ça ne va pas très bien pour les poissons dans l'océan, c'est pas joué. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect du manque d'eau, en fait. C'est-à-dire que la production textile demande énormément d'eau, entre autres pour la culture de coton, qui a des conséquences assez graves en termes d'assèchement des ressources aquatiques, par exemple la mer d'Aral, qui vraiment est presque plus une mer. Et après, tu as tout ce qui est gaz à effet de serre, production de CO2, en fait. Et la production de CO2, c'est globalement la conséquence de l'énergie que tu brûles pour fabriquer des choses. Et là, la conséquence du CO2 et des autres gaz à effet de serre, comme ça le disait bien, c'est l'effet de serre, donc c'est le réchauffement climatique.
Bien sûr.
Alors en ce moment, on en parle beaucoup, mais du coup, le réchauffement climatique, ça a des conséquences qui sont propres. Donc globalement, quand on parle de pollution, en fait, on veut parler de toutes ces choses-là. Et du coup, il y a ce chiffre de deuxième ou troisième industrie textile la plus polluante, c'est quelque chose qui a été beaucoup repris par la presse, parce que c'est impactant. Et en fait, ça s'appuie sur rien, parce qu'on n'a pas réussi à
distinguer, en fait,
qu'est-ce qui est le plus grave de mettre du plastique dans les estomacs des poissons ou de faire augmenter la température de la planète. Par contre, ce qu'on sait, par exemple, on sait l'impact de la mode sur ces différents aspects. Sur l'eau, la mode, ça consomme 79 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. C'est-à-dire 1% de la consommation mondiale d'eau, c'est la mode. Le plastique, faut savoir que dans la mode, le polyester, donc qui est un dérivé du pétrole, ça représente 60% des fibres textiles utilisées dans la mode. Or, le polyester qu'on utilise pour faire nos fringues, à chaque fois qu'on lave, à chaque fois qu'on le passe en machine, il relâche des microfibres. C'est vraiment des trucs minuscules qui, en fait, passent dans tous les circuits d'eau et se retrouvent dans les océans. Parce qu'on n'arrive pas à les filtrer, en fait. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore commencé à essayer de vraiment les filtrer. Et ces microplastiques, en fait, représentent 90% des déchets retrouvés dans l'océan. Donc à chaque fois, on voit des images de bouteilles plastiques, on a l'impression que c'est parce que tu jettes ta bouteille en plastique que tu pollues les océans. Ça, c'est la partie visible. Mais le gros, le plus grave, en fait, c'est ces microplastiques qui viennent en grande partie de nos fringues. Et le plus terrible, c'est qu'une bouteille en plastique, on peut la ramasser. Le microplastique, une fois que c'est dans les océans, c'est foutu, en fait. C'est minuscule. Et nous, on s'était un peu renseigné pour voir s'il y avait quelque chose à faire, de filtrer pour essayer de récupérer les microplastiques. Et en fait, c'est minuscule. Si tu commences à filtrer l'eau pour récupérer les microplastiques, tu récupères avec plein de micro-organismes, le plancton. Et en fait, ça serait comme vider les océans de toute matière vivante.
Bien sûr.
Donc ça, c'est irrésolvable. À partir du moment où il y a des microplastiques dans les océans, on ne sait plus quoi faire. Et après, il y a le CO2. Et là, pour le coup, l'industrie textile, on sait combien elle émet. Elle émet environ 8,1% des gaz à effet de serre du monde.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est l'équivalent de presque autant que l'ensemble du transport routier de la planète. Du coup, est-ce que c'est la deuxième? Si tu prends juste le critère CO2 à gaz à effet de serre, en fait, ça serait plutôt la quatrième industrie la plus polluante, en tout cas la plus réchauffante de climat, derrière l'agriculture, l'électricité, le chauffage des bâtiments et en quatrième position, le transport. Ça, si tu prends juste le CO2, mais en fait, on voit que ça a des impacts négatifs sur énormément d'autres aspects.
Bah justement, ton constat global sur l'industrie textile, en tout cas la mode telle qu'elle est aujourd'hui, bon, t'as sorti les bonnes données, mais c'est quoi ton message, en fait, ton message premier à faire passer?
C'est là où on revient, en fait, sur le constat que nous, on avait fait au début de l'eau, mais que je pense que chaque consommateur peut se faire, c'est ce truc des vêtements qui sont devenus de mauvaise qualité. En fait, si on regarde un peu ce qui s'est passé, il y a eu dans les années 80-90 l'arrivée de la fast fashion, les grandes enseignes Zara, H&M, qui sont basées sur un modèle assez simple, c'est de renouveler en permanence leur collection. Au départ, les collections, c'est fait pour être renouvelées deux fois par an, printemps, été, automne, hiver, ça a un certain sens en fonction des saisons, quoi.
Mais là, on est passé à la semaine, quoi, quasiment.
Et maintenant, la dernière fois, j'avais regardé.
10 ou 15 jours, je crois,
trois semaines, je crois que c'est leur cycle de collection. Et en gros, il y en a 24 par an, quoi. Et en fait, eux, leur manière de penser, c'est qu'ils se disent, il faut qu'à chaque fois que tu ailles chez nous, Il y a au moins la moitié du magasin qui était
nouveau
pour que même si t'es venu la semaine dernière, t'aies encore envie d'acheter cette semaine. Et l'autre chose, donc ils le font très bien, ils arrivent à renouveler très rapidement leur collection. Et ce qu'ils font aussi de manière très agressive, c'est une politique de prix très forte. Et alors, si tu veux proposer des pièces pas chères, un peu stylées et très souvent en changer, eh ben, ça veut dire que le prix, il faut que tu le récupères quelque part. Donc tu le récupères en produisant dans des pays où c'est vraiment pas cher et en payant des gens en dessous du salaire vital, c'est-à-dire le salaire nécessaire pour vivre dignement. Tu le récupères en ne payant pas ce que tu prends à la nature.
T'as une notion à peu près du salaire moyen d'une personne qui bosserait pour Zara en sous-traitance ?
Ça va dépendre vachement des pays.
Mais genre au Bangladesh ou dans des pays comme ça, je sais même pas si Zara fabrique là-bas, mais
si, oui, si, tout le monde fabrique là-bas, sauf nous. Non, j'ai pas de notion là. Je te rechercherai ça si tu veux. Qu'est-ce qu'on disait ?
Non, on disait qu'ils ont un processus de casser les coûts, donc forcément à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui paye derrière.
Ouais. Donc t'as les gens qui fabriquent les vêtements qui payent. C'est à la nature qui paye. Par exemple, c'est coûteux de traiter tes os après que tu aies fait une teinture. Et dans certains pays, personne ne t'oblige à traiter les os. Tu relâches directement tes os contaminées dans les fleuves. En Chine, il y a eu des périodes comme ça où il y avait des fleuves complètement rouges. Il y a la campagne Greenpeace Détox de Greenpeace qui avait montré ça. Les images sont flippantes, quoi. Et la troisième manière, en fait, que ça soit moins cher, les fringues, en fait, c'est de dégrader la qualité, en fait. Plutôt que de prendre du coton de bonne qualité, tu vas prendre du coton de mauvaise qualité, et tu vas arriver à faire un produit qui est très peu cher.
Et qui en plus va t'inciter à revenir quelques temps après pour acheter en fait le vêtement. Donc ils ont presque intérêt à ce que le vêtement soit périssable plus vite.
C'est sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle... c'est l'obsolescence programmée. On en a tous entendu parler. L'obsolescence programmée, la définition à la base, c'est plutôt tu mets quelque chose dans le produit que tu vends pour être sûr qu'il se casse. Là, c'est même pas ça. C'est juste que c'est un effet. Comme ils veulent le faire aussi peu cher, ils prennent des matériaux de mauvaise qualité, donc ça va se casser. Et en plus de ça, tout ce qui va avec cette obsolescence programmée, c'est l'obsolescence programmée du désir. C'est-à-dire le fait de renouveler en permanence les collections, le fait d'avoir sans cesse des nouveaux modèles, en fait, c'est pour faire sentir que toi, ce que tu as dans ta garde-robe, ça ne va pas, en fait.
Ça ne te suffit pas.
Voilà, tu ne le désires plus. Ce qu'il te faut, c'est...
Du neuf.
C'est du neuf. Et je trouve que c'est ce que la fast fashion a réussi à faire à l'industrie textile. Elle a réussi à changer l'objectif de l'industrie textile qui, à la base, était de faire des vêtements qui durent, des vêtements de bonne qualité, pour faire du neuf. La seule chose qui intéresse l'industrie textile aujourd'hui, c'est le neuf. C'est le renouvellement des collections, etc. Et le prix, le prix à payer, il est terrible. Il est terrible pour la planète, il est terrible pour les gens qui produisent, mais il est terrible aussi pour les consommateurs, en fait.
Et qu'est-ce que tu as pensé de la campagne d'H&M et de Zara sur... Ils ont quand même fait des vidéos pour montrer qu'ils étaient dans une démarche éthique, de développement durable, etc. T'en penses quoi ?
Je trouve que ça fait partie de... Effectivement, si tu regardes H&M, c'est ceux qui... En tout cas, une des enseignes qui communique le plus sur le développement durable. Je trouve qu'il y a plusieurs choses, en fait. La première, c'est que tu fais une collection capsule avec du coton bio. Et avec ça, tu essayes de redorer l'image globale d'une marque. C'est comme si Monsanto, finançait des nids d'abeilles, si tu veux. Super, mais à côté de ça, ceux qui produisent les cotons et les maïs les plus dangereux pour la planète, quoi. Donc ça, c'est une stratégie, pour moi, que c'est une stratégie de greenwashing des grandes marques. Tu fais un tout petit initiative écologique et tu espères que cette mini-initiative va être là pour redorer ton blason. Et l'autre aspect, je trouve... Alors, H&M, ils font quand même énormément d'initiatives sur des puits pour absorber le carbone, sur du recyclage. Ils font des collections avec du coton bio. C'est jamais quelque chose de global. Ils n'ont pas l'ensemble de leurs collections qui sont comme ça. Mais surtout, en fait, personne ne s'attaque... À chaque fois que tu vois des initiatives durables comme ça, personne ne s'attaque au fond du problème qui est que la surproduction, en fait. En fait, il y a quelque chose qu'on n'arrivera jamais, une équation qui ne changera jamais, c'est qu'à chaque fois que tu produis, tu pollues. Donc plus tu produis, plus tu pollues. Et de vouloir rajouter un peu de recycler, mettre un peu de coton bio, très bien. Mais en fait, c'est juste que tu ne veux pas t'attaquer au cœur du problème.
Mais surtout que le recyclage, sauf erreur de ma part, le fait de réutiliser une matière, même ça déjà, ça pollue.
En fait, ouais, actuellement, alors ça dépend. Recyclage, il y a encore mille choses au sein de
ça, c'est complexe.
Tu peux recycler, par exemple, tu as un t-shirt en coton, tu veux récupérer les fibres de coton pour refaire un t-shirt en coton. En fait, l'action de séparer les fibres, séparer les fils, en faire des fibres, faire un fil et retricoter pour faire un t-shirt. En fait, ça c'est très coûteux en énergie. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir des processus qui soient hyper efficients. Donc, en termes d'énergie utilisée, bah, ça peut être plus coûteux de faire d'utiliser de la fibre recyclée que de la fibre neuve. Et ça, c'est dans le meilleur des cas où tu as finalement un t-shirt en 100% coton. À partir du moment où tu as un coton polyester, là, le coût pour séparer le coton du polyester est insupportable. Après, ce que font pas mal de gens, c'est de faire du open loop recycling, ça s'appelle. C'est-à-dire, au lieu de prendre des fibres textiles pour en faire d'autres fibres textiles, tu prends des fibres d'ailleurs pour en faire des fibres textiles. Exemple, tu fais un fil de polyester à partir des bouteilles plastiques. Où là, on arrive à avoir des process qui sont un peu plus efficients. Par contre, le problème qui se pose en général dans le recyclage et dans beaucoup de choses, c'est dans beaucoup d'initiatives écologiques, c'est la qualité du matériel que tu obtiens après. Un t-shirt en coton recyclé, le coton que tu vas prendre, ça va être un coton qui a des toutes petites fibres qui ont été cassées en fait, dans le processus de recyclage. Or, ce qui fait la qualité d'un coton, c'est la longueur de la fibre. C'est ce qui va faire qu'il résiste bien au lavage, qu'il ne rétrécit pas, qu'il ne bouloge pas, qu'il ne se déchire pas. Donc en fait, tu vas recycler des fibres de coton, tu vas obtenir des petites fibres, tu vas faire un t-shirt, mais la qualité de ce t-shirt va être moindre par rapport à ce qu'elle devrait être. Et du coup, tu retombes dans le cycle en fait, de produire des éléments qui ne vont pas tenir dans le temps et qui vont inciter en fait, les gens à en acheter de nouveau.
Je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que tu aurais une définition du greenwashing? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la question.
Ouais, alors comme définition, pour moi, le greenwashing, c'est quand c'est une entité qui participe activement finalement à la pollution, en tout cas à l'impact négatif sur l'environnement, essaye de faire croire l'inverse sans changer profondément en fait ce qui ne va pas chez elle, mais en mettant des mini pansements. Pour faire croire
pour du marketing en fait.
Exactement. Alors je trouve que Monsanto c'est toujours un bon exemple. Monsanto, si vous allez sur leur site, c'est incroyable, tout est vert.
C'est vrai.
Monsanto, t'as vraiment l'impression que
sauf quand tu regardes les documentaires d'Arte.
Ouais. Mais si tu vas sur leur site, t'as l'impression que c'est Pierre Rabhi quoi qui va chez eux quoi, alors qu'on sait que non quoi.
Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et t'as une phrase que j'aime bien, c'est « planter un arbre n'est pas un droit à polluer ».
Ouais, je trouve que ça fait partie des initiatives que peuvent prendre des grandes marques pour oublier de se poser les questions sur le cœur de leur processus, quoi. Enfin, le vrai truc, le vrai problème en ce moment, à l'heure de la sortie du rapport du GIEC, à l'heure où on sait que au minimum la température va augmenter d'1,5 degré sur la planète, le vrai truc en ce moment, c'est qu'il faut ralentir la production. Et plutôt que ralentir la production, bah, voilà, les gens ils vont prendre des initiatives quelconques comme planter un arbre. Planter un arbre, en fait, ce qu'on espère, c'est en gros qu'un arbre va pousser. Et en fait, les arbres emprisonnent du CO2, ce qui permet de réduire les gaz à effet de serre, ce qui permet de réduire le réchauffement climatique. C'est pas une solution à tout, en fait. Enfin, déjà, est-ce que planter un arbre, ça compense la totalité des émissions carbone que tu as émises en produisant un vêtement? Ben non, ça, c'est pas la même chose. Et ensuite, planter un arbre en France, ça n'a pas du tout le même impact que empêcher un arbre de se faire couper dans la forêt amazonienne.
Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que doit faire la fast fashion, à ton avis? Et en particulier H&M, pour ne pas le citer.
Ben, en fait, c'est ça qui est hyper compliqué. Enfin, ça serait... J'arrête pas de prendre l'exemple de Monsanto, mais qu'est-ce que doit faire Monsanto? Monsanto, ils peuvent te dire, ben, là, on fait des OGM qui demandent moins de Roundup, on fait des pesticides... à partir de produits recyclés, enfin tu peux faire ce que tu veux. Enfin, le cœur de ce business, c'est quelque chose qui détruit la planète quoi. Et le cœur de la fast fashion, c'est la surproduction. c'est le renouvellement du design, c'est la fringue de mauvaise qualité. Le cœur de ces industries-là, c'est de produire beaucoup, c'est de surproduire et d'inciter les gens à surconsommer. Donc en fait, pour moi, ce que devraient faire les marques de fast fashion, c'est vraiment effectivement de se regarder et de se changer en interne, ce qui est quasiment impossible parce qu'elles sont drivées par des objectifs de rentabilité, enfin de rentabilité même pas, mais de croissance en tout cas qui sont hyper forts. Donc si demain il y a une marque de fast fashion qui décide de revoir complètement son modèle, c'est-à-dire de lancer une filiale et de se dire cette filiale on va la faire bien de bout en bout, on va faire gaffe à la surproduction et tout. Ça serait chouette, j'aimerais trop, mais je les vois pas abandonner un modèle économique extrêmement rentable simplement pour sauver la planète, quoi.
Mais est-ce que du coup tu penses que c'est les petites marques ou les démarches un peu plus parcellaires qui vont bon an mal an remplacer ce genre de consommation et de production?
Je sais pas, c'est un peu des choix de société qu'on doit faire, et là je trouve que il y a quand même une notion d'urgence quoi, qui apparaît. Pour moi, il y a trois choses qui doivent se passer pour changer tout ça. Je pense qu'il y a déjà, il faut qu'il y ait un truc politique, quoi. En fait, il faut que ça soit taxé de mal produire. Il faut que ça soit taxé de polluer. Il faut que ça soit taxé la surproduction.
Tout comme la taxe du CO2, etc. à l'époque.
C'est toute une discipline en fait, qui s'appelle l'économie de l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que tu prends à la nature, tout ce que tu pollues, etc., tu le payes au juste prix. À partir du moment où tu le payes au juste prix, tu ne peux plus avoir un t-shirt à 4 euros. C'est pas possible, quoi. Et il faut taxer aussi cette dégradation de qualité des produits, quoi. Le fait de mettre sur le marché un produit qui va tenir 3 lavages, c'est une aberration écologique qui devrait être taxée aussi. Donc il y a déjà quelque chose du côté des politiques qui sont des décisions quand même dures à prendre. Enfin, on l'a vu, Hulot, il est parti avant d'avoir réussi à faire ce qu'il voulait. Donc il faut beaucoup de courage, quoi, pour arriver à ça. Il y a effectivement un truc des marques. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de marques qui se créent en n'ayant pas les considérations écologiques. Il faut que ça ne soit pas un espèce de truc en plus qui plug dans leur marque. En fait, il faut que ça soit au cœur de ce que tu crées, quoi. Enfin, quand tu fais des vêtements, tu ne peux pas te dire, après avoir balancé des litres de teinture polluante dans la rivière, au fait, ça serait bien qu'on ait un processus de traitement des teintures. En fait, il faut que ça soit au cœur de ton processus. À partir du moment où tu penses ton produit, que tu le penses aussi pour qu'il soit moins polluant. Et après, je pense que le troisième, la troisième part en fait de cette révolution, c'est une révolution du consommateur et qui existe, quoi. Je pense qu'il est de plus en plus présente. Je pense que les gens de notre génération,
mais alors justement sur notre génération, enfin en tout cas même sur la démarche du consommateur, parce que c'est plus un consommateur mais c'est un consommateur. Enfin, on entend beaucoup ça en marketing, mais est-ce que c'est pas finalement réservé aux plus riches? Tu vois, parce qu'on nous dit souvent, il faut acheter, dans des trucs vintage, fais ton tri collectif, ton tri sélectif. Mais j'ai un peu l'impression que la mode éthique aujourd'hui, elle est réservée à une seule partie de la population, parce que ça reste quand même des produits chers. Alors je sais que chez Loom, vous avez des produits qui ne sont pas si chers que ça. mais bon an, mal an, j'ai un peu le sentiment, après je peux me tromper, que c'est quand même des produits chers.
Ça, je trouve que c'est un réflexe, hyper classique qui avait la même chose pour la malbouffe, quoi. Enfin, on dit les gens. Enfin.
Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le bio, là, il y a une info qui est sortie aujourd'hui, moins cancérigène que.
En fait, le truc de payer pas cher en général, ça veut dire que si toi tu payes pas cher, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye, ou alors que c'est que toi tu vas le payer à un autre moment. Pour la mode, on peut prendre un exemple hyper simple, tu vois. Donc, t'achètes un t-shirt à 5 € au lieu de 20, tu achètes chez H&M. Déjà, donc pour arriver à faire ce t-shirt, donc on a dû dégrader la qualité en utilisant du coton pas cher, en remplaçant le coton par des matières synthétiques. Tu prends 5 minutes au lieu de fabriquer au lieu de 20. Et du coup, tu réduis le prix du t-shirt, mais le résultat, c'est que tu as un t-shirt de mauvaise qualité et du coup, tu devras le racheter plus souvent. Et du coup, il y a un proverbe anglais, je crois, qui dit en fait, les pauvres n'ont pas les moyens d'acheter bon marché.
C'est
parce
vrai.
Que finalement, enfin, l'achat immédiat est moins cher, mais sur le long terme, en fait, ça va te coûter plus cher d'avoir ce truc-là. L'autre chose. Qui est un peu pervers, c'est que pour produire ces t-shirts pas chers, en fait, l'industrie textile s'est délocalisée de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est. Et
donc
elle a entraîné.
C'est un autre type d'appauvrissement.
Je suis de Lorraine, où si tu vas dans le nord ou dans le nord-est, c'est quand même un bassin qui a été laminé par le départ de ces industries textiles. Donc quand même pour vendre, en tout cas, cette industrie-là est en partie responsable de la pauvreté en France. Et le troisième chose, c'est que produire pas cher, c'est généralement produire sans prendre très soin de l'environnement. Et au final, en fait, ça c'est une notion qui s'appelle la justice environnementale. C'est au final, les premières personnes qui vont pâtir en fait des dérèglements climatiques, de la pollution, etc., ça va être les gens les plus pauvres. Ça va être les gens, ben, par exemple, c'est ce que tu disais là, l'étude qui vient de montrer qu'en fait, quand tu manges bio, tu réduis de je sais pas combien tes risques de cancer, tes cancers. Si t'as pas les moyens de t'acheter un truc bio, eh ben, tu vas donc être plus sujet à la maladie. Pareil au niveau de la pollution des eaux. Si t'as pas les moyens de te payer quelque chose qui traite l'eau que tu vas boire, eh ben, tu vas être plus sujet à la maladie. Et du coup, en fait, c'est un peu pervers de penser que. C'est un raisonnement pervers que de faire croire la fast fashion et la grande distribution. Aussi d'ailleurs, on dit bah nous on fait des trucs pas chers, on fait ça pour les gens qui ont pas d'argent. Faux. En fait, quand tu fais ça, tu fous encore plus les gens dans la merde, quoi. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que cette mode là en étant pas chère, c'est pas qu'elle donne du pouvoir d'achat aux gens. On entend beaucoup ce truc là c'est qu'elle fait croire aux gens qu'en fait ils peuvent avoir les mêmes, consommer autant, faire autant de shopping que les gens les plus riches que tu vois dans Gossip Girl ou dans Sex in the City. Tu peux sortir avec 20 balles de Primark avec 5 sacs sous les bras et t'auras une illusion comme ça. Ouais, d'avoir tenir une classe, sauf que on sait que ça aussi c'est pervers. On sait que la consommation entraîne la consommation, quoi. On sait que ça n'apporte pas le bonheur et qu'au contraire ça crée une espèce d'addiction qui fait que t'as toujours besoin d'acheter des nouvelles choses, quoi. Donc non, moi je pense que c'est une illusion de croire que la mode pas chère c'est un truc de pauvre. Je pense que c'est ce que ces grandes enseignes ont bien réussi à nous faire croire. Et après, effectivement, il y a un truc de prix qui se passe dans la mode éthique. Il manque un petit intermédiaire, que ça soit pas tout à fait hors de prix, quoi. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Loom.
J'allais t'en parler parce que vous dites que vous avez une obsession de la qualité et des vêtements qui durent. Mais comment vous vous y prenez, en fait ?
Bah, pour avoir des prix pas chers, en fait, nous, on fait des choix de pas dépenser là où d'autres dépensent. On n'a pas de magasin, on essaye d'appliquer une marge très faible pour être le plus démocratique possible. Et je pense que c'est aussi une question de taille. Pour l'instant, la mode éthique est très prise par des petits créateurs, etc. À partir du moment où tu as des acteurs plus gros qui arrivent sur le marché, bah, ils peuvent réussir à avoir des économies d'échelle et pratiquer des prix plus petits. Je trouve que Veja, c'est un bon exemple. Veja, leurs prix sont alignés avec les prix de Nike et d'autres baskets, sauf que leur pompe leur coûte environ 10 fois plus cher à produire. C'est juste que ils mettent pas autant de thunes dans le marketing que Nike, et ils font pas ils ont pas de boutique en propre, et ils font pas des marges de 10, quoi. Donc c'est juste quand tu fais une marketing tu gagnes moins d'argent. Globalement, c'est ça le truc. Mais je pense que ça va arriver, en fait. Je pense que de plus en plus de personnes vont se tourner vers là, et je pense que de toute manière il y a une demande du consommateur de pouvoir s'habiller correctement. Ça veut dire correctement dans le sens de le respect de la planète et des gens qui travaillent, et que les gens sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent, mais pas non plus effectivement 100 balles dans un t-shirt, quoi. Et moi, je pense que ça va arriver. Nous, c'est notre objectif. Et je vois de plus en plus de gens, de plus en plus de marques autour de nous qui ont le même. Donc, ça va venir. Et c'est à partir de ce moment-là où on arrivera à avoir une offre éthique abordable que tremblera la fast fashion.
Et ton ambition avec Loom, c'est quoi, en fait ? Ton ambition à 3, 5 ans, 10 ans, enfin, c'est... Comment tu vois les choses ?
C'est toujours un peu compliqué. Moi, j'aimerais vraiment bien arriver à... J'aimerais bien que les gens qui vont chez Zara, chez H&M et qui disent oh, pff, ça fait quand même chier pour l'environnement, ça fait quand même chier pour la planète, puissent se dire attends, non, c'est bon, je peux aller et ça fait chier aussi sur la qualité de mes vêtements, puissent se dire non, mais je peux aller dans cette fringue-là, parce que dans cette marque-là, je peux aller chez Loom parce que je suis sûre de la qualité, et je suis sûre qu'ils travaillent pour que leur impact soit le moins négatif possible, quoi. Et j'aimerais bien qu'il y ait un switch comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent à la fast fashion et de plus en plus de gens qui aillent sur des marques comme les nôtres.
Qu'est-ce que tu as envie de dire en plus ? Une question que je ne t'aurais pas posée, ou un coup de gueule, un coup de cœur. Est-ce que tu as envie de faire passer un message ? Alors, pas particulièrement sur ta marque Loom, mais globalement.
Ouais.
Parce que je sais que tu fais pas mal d'interventions, que malgré tout, derrière Loom, il y a un projet, j'ai envie de dire, un peu politique.
Ouais, c'est sûr.
En tout cas, philosophique même.
Bah nous, c'est assez rigolo parce qu'à la fois on est une marque de vêtements, donc on a une entreprise à faire tourner, il faut quand même qu'on vende. Et à côté de ça, on l'a fait depuis la conviction. Hein. Donc depuis faire des fringues de bonne qualité, en faire moins mais mieux, et ne pas inciter les gens à acheter ce dont ils n'ont pas besoin. En fait, en gros, chaque année, les Français ils jettent 11 kilos de vêtements. Et moi, ça me rend dingue, en fait, que tu puisses acheter autant de fringues et ne pas les utiliser et ensuite les jeter. Enfin, c'est l'inverse. Moi, je veux que les gens achètent des trucs lourds, mais les mettent tout le temps et les gardent.
Et qu'est-ce que tu penses du marché de la seconde main? Tu crois que ça a un avenir ou pas? Le fait d'acheter et revendre ces fringues d'occasion?
Ben, ça, je trouve que... Je vois, hein, c'est un peu comme la fripe. C'est quand tu veux avoir un impact écologique positif, mais que tu veux quand même pas renoncer au plaisir du shopping, etc. Je pense qu'il y a deux aspects là-dedans. Le premier, c'est que finalement, le marché de la seconde main, il est devenu compliqué parce que le marché a été tellement inondé de fringues de mauvaise qualité de la fast fashion qu'en fait, il y a de moins en moins de fringues qu'on peut reprendre en seconde main.
Ouais, c'est
ça. Tu peux parler avec les gens du relais, mm-hmm. tu sais, ceux qui traînent les fringues et tout. En fait, eux, ils sont pas bien en ce moment parce que la plupart des fringues qu'ils récupèrent, c'est des fringues H&M, Zara et Fast Fashion.
Et
ces fringues-là, oui, elles n'ont pas de valeur en fait sur le marché de la seconde. Tu ne vas pas aller acheter un t-shirt H&M de seconde main en fait. Donc la seconde main, en fait, elle a d'intérêt seulement si les fringues qui sont mises sur le marché, les fringues de première main, sont des fringues de bonne qualité.
Bien sûr.
Donc le marché de la seconde main, c'est pas une solution en tout cas au problème de baisse de qualité de l'industrie textile. C'est une super solution pour si tu veux renouveler son stock, si t'as pas énormément d'argent, si tu veux pas acheter, si tu veux acheter éthique, etc. Mais c'est pas la solution. Structurellement, on résout pas le problème de dégradation de la qualité globale de l'industrie textile.
Tu vois des démarches aujourd'hui qui te... T'as cité Veja tout à l'heure, mais est-ce que t'as en tête d'autres marques ou d'autres démarches? C'est pas forcément dans la... Tu vois, dans le textile, mais... dans le textile, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue, mais est-ce que tu penses à des gens qui, selon toi, ont une bonne démarche aujourd'hui?
Ouais, en fait, il y a quand même plein de trucs rigolos qui arrivent. Il y a tout ce qui est l'économie du partage. C'est de la même manière qu'il y a de moins en moins de gens qui ont de voitures et qu'on va être de plus en plus dans du drivey ou dans du blablacar, que tu possèdes plus trop ces gros objets. Qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça qui se passe sur le vêtement, je pense que ça se passera sur les pièces
haut de gamme,
un peu plus cher.
Bah, y a pas mal de trucs de location d'ailleurs.
Ouais, d'échange ou de location, etc. Tu vois que pour les mariages, ça n'a aucun sens de s'acheter une robe à chaque fois.
Ça c'est sûr.
je m'achète pas de robe tout le temps pour aller au mariage. Là, je trouve qu'il y a des trucs rigolos qui se passent. Je vois de plus en plus de marques qui mettent en place leur propre place de marché. Où tu vois, genre, t'as acheté ta fringue, je sais pas quelle marque, et tu vas sur le site de cette marque et il y a un endroit où tu peux acheter des fringues de cette marque d'occasion.
D'accord.
Donc ça, c'est assez rigolo comme nouvelle tendance. Il y a aussi tout le truc du do-it-yourself, qui est pas anodin, hein, qui est vraiment un espèce de truc de production ultra-locale. Quoi. Le circuit court dans la mode, on n'a toujours pas réussi à le faire.
Donc, mais pourquoi on n'a pas réussi à le faire?
Ben, parce qu'en fait, l'industrie textile est hyper localisée, en fait. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes endroits où tu produis le coton. Par exemple, tu produis pas je crois pas qu'il y ait de production de coton en Europe, quoi. C'est même pas le même endroit où tu fais la fibre, pas le même endroit où tu fais le fil, pas le même endroit où tu tisses, où tu tricotes, et pas le même endroit où tu fais la confection. Donc en fait, il y a quelques personnes qui essaient de faire ça. Il y a 1083 en France qui fait des jeans. Et donc lui, il a essayé de mettre 1083 kilomètres entre... je sais plus, je pense pas que... Pas depuis le coton, parce que le coton, tu peux pas l'avoir, mais vraiment entre la fibre et le produit fini. Donc il y a des trucs comme ça qui existent, mais c'est pas de la bouffe. Hein. L'industrie, l'agroalimentaire, vraiment, tu peux produire localement parce que c'est beaucoup moins spécialisé. Pour faire du coton, t'as intérêt à en faire des étendues de dingue. Pour faire du fil de coton, il faut des machines qui soient énormes. Alors que quand tu fais une tomate, t'as besoin de terre et tu peux la manger directement. Et après, il y a des marques que j'aime bien. Moi, j'aime bien Opal. Ils essaient de faire des fringues uniquement en produits recyclés. Et je les aime bien, ils ont une bonne démarche aussi. J'ai discuté avec eux la dernière fois et ils sont assez d'accord sur notre constat de dégradation de la qualité. Et c'est aussi un des axes sur lesquels ils essayent de faire bien. Il y a Anaïs, il y a les récupérables. C'est une forme de recyclage que j'aime bien. En fait, c'est pas du recyclage, c'est de la réutilisation. C'est-à-dire, au lieu de détruire un textile, d'en récupérer les fibres, de refaire un fil, en fait, elle prend des bouts de rouleau et elle en fait des fringues à partir de ça. Donc ça, c'est reuse, ce que je trouve beaucoup plus powerful que recycle, en fait. Parce que là, il n'y a pas d'énergie. Hein. Ouais. Tu prends juste, t'as exact. Pas besoin de détruire et de refaire.
Bah, merci beaucoup, Julia.
De rien.
C'était super sympa d'échanger avec toi. Et écoute, bonne chance pour la suite et à bientôt.
Ça marche.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.